Alors, je trouve ça intéressant de passer juste après Aminata, parce que c'est ce que je disais avant qu'elle présente, parce que c'est quand même assez en lien. Moi aussi, je m'intéresse vraiment à Internet, les comportements Internet, les préférences Internet, d'une sous-population très précise, par contre, des personnes suicidaires qui utilisent Internet dans le cadre de leurs idées suicidaires ou pas. Donc, je viens vous parler finalement des résultats d'une étude de besoin. J'étais pas là cet avant-midi, alors je sais pas trop comment vous êtes organisé. Si vous avez des questions durant ma présentation de... Puisque je parle de prévention du suicide, je viens de la psychologie communautaire, n'hésitez pas, là, j'ai pas du tout de problème à clarifier certaines choses si jamais je ne le suis pas clair. Alors, le contexte de cette recherche-là, de quelle façon ça s'est inscrit? Évidemment, il y a une grosse partie de cette recherche-là qui est ma thèse, évidemment, mais ce que je viens vous parler aujourd'hui, c'est vraiment les résultats de l'étude de besoin qui, elle, a été construite dès le départ en partenariat avec Suicide Action Montréal. Suicide Action Montréal, c'est un organisme communautaire en prévention du suicide à Montréal. Il y en a partout au Québec, là, des organismes communautaires du genre. C'est, je vous dirais, c'est peut-être un des plus gros, en tout cas, qui dure depuis longtemps, disons. On l'appelle SAM, là, je vais le dire, SAM, dans la présentation. Alors, SAM a pour mission de prévenir le suicide et ses graves impacts en offrant des services de qualité aux personnes suicidaires, à leur entourage et aux intervenants qui les côtoient. Donc, évidemment, offrir des services de qualité ici est important. Et c'est dans ce cadre-là que ça a été une belle rencontre entre eux et moi, donc entre la clinique et la recherche, je vous dirais, pour développer une recherche-action qui cherche vraiment à répondre à une double préoccupation clinique et de recherche sur le principe de « mais est-ce qu'on doit prévenir le suicide à l'aide d'Internet, en utilisant le médium Internet? » Pourquoi la question est venue? Mais d'abord parce que Internet est largement utilisé, évidemment, dans toutes les formes dans toutes les différentes populations, mais aussi parce qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives en santé mentale, justement, au niveau de la dépression, au niveau de l'anxiété, qui vont intervenir sur Internet. Il y a tel jeune, que ça fait à peu près 10 ans, qui font tel jeune, un organisme pour les jeunes d'aide, qui vont intervenir par chat depuis déjà une dizaine d'années. Donc, c'est assez répandu, mais en prévention du suicide, on se retrouve avec rien, du moins au Canada. Et au Québec. Ailleurs dans le monde, il y a un petit peu plus d'initiatives, mais c'est à ce point encore marginal que c'est difficile vraiment d'évaluer l'efficacité de ces interventions-là. Il y a d'autres chercheurs qui s'y intéressent de toute façon. Donc, mon idée, c'était plus d'aller voir est-ce qu'on sait vraiment ce qui pourrait être intéressant pour les personnes vulnérables au suicide sur Internet. Donc, l'idée, c'était de dire ensemble... En recherche-action, bien, allons voir avec l'expertise clinique, avec les données de la recherche et cette étude de besoin-là, entre autres, et qu'est-ce qu'on connaît des caractéristiques et des préférences de ces personnes-là. Alors, l'étude de besoin, comment on a fonctionné? Au niveau du recrutement, on est allé exclusivement sur le web. Donc déjà, on a créé un questionnaire qui a été diffusé via les réseaux sociaux, les sites Internet, des organismes en prévention du suicide, évidemment, des organismes en intervention psychosociale du Québec aussi. Ça fait maintenant 11 ans que je travaille personnellement en prévention du suicide. Donc, tout le réseau québécois de prévention du suicide, ce sont tous mes amis, ce sont tous des gens avec qui je travaille et qui ont collaboré vraiment à diffuser ça. Pour ceux qui connaissent les réseaux sociaux, tout le monde ici, évidemment, vous savez qu'on perd rapidement un peu le chemin de où est allée la recherche. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. Donc, à partir du moment où c'était diffusé sur les sites Facebook et autres, bien, ça partait. Puis, je retrouvais une annonce de l'étude un peu partout. L'idée, c'est que Internet porte l'étude et c'est vraiment ce qui s'est produit. Ce qu'on cherchait, ce qui était annoncé, c'est qu'on cherchait simplement des personnes de 18 ans et plus qui comprennent le français, parce que le questionnaire est en français. Il n'y avait pas d'autres indicateurs nécessairement qu'on cherchait des personnes à risque de suicide. Par contre, c'était assez transparent, là, à la fois dans le titre de l'étude que dans le formulaire de consentement, évidemment. C'était bien identifié qu'on s'intéressait au comportement Internet et au suicide. Donc, les gens qui ont fait l'étude savaient qu'il était question de ça, mais on ne leur demandait pas d'avoir des idées suicidaires nécessairement. Donc, les questionnaires, il y avait différentes questions sur les comportements, les préférences Internet. Et pour le risque suicidaire, c'était avec le Beck Scale qu'on a évalué là, le risque suicidaire ou pas des gens. Un coup qu'on a fait le ménage, il y avait plus que 450 personnes qui ont répondu au questionnaire en faisant le ménage des données qui étaient, comment on dit ça, en statistique, là, non valides, là, qui étaient obscures un peu. Et finalement, les personnes de 17 ans et moins, évidemment, il fallait les retirer. Donc, on se retrouve avec une population de 336 personnes. Donc, je vous décris mon échantillon global d'abord. Ce sont des personnes donc entre 18 et 82 ans. 82 ans, c'est assez marginal parce que l'autre après, c'est 71. Ça vous donne une idée. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une moyenne de 35 ans. Un répondant sur 4 est un homme. Donc voilà, l'information y est. On pourra y revenir plus tard. Donc évidemment, ce n'est pas représentatif à ce niveau-là de la population générale. On a seulement 25 % des répondants qui sont des hommes. Pour le reste, c'est assez représentatif, autant au niveau de l'âge que le reste des informations. Donc, dans l'échantillon total, il y a une personne sur cinq qui vit seule. La question, c'est « vivez-vous avec quelqu'un? » Fait que là, ils pouvaient dire le nombre de personnes à la maison, mais là, on a séparé avec une personne et plus et vivent seule. Au niveau de l'emploi du temps, 20 % des personnes sont à la maison. Et à la maison, inclut toutes sortes de choses, dont l'arrêt de travail pour maladie ou autre. 23 % sont aux études et 57 % travaillent. On leur demandait leur occupation du temps, la principale, je vous dirais. 50 % des personnes vivent à Montréal et 50 % à l'extérieur de Montréal. J'aurais pu vous décliner là, chacun des statistiques par région. Ce n'était pas vraiment intéressant. On a plutôt fait les statistiques en disant ben, il y a la population de Montréal et du reste. Je ne l'ai pas mis là, mais on a même après ça établi une différence entre grande ville, petite ville, village, milieu rural. Donc, mais les statistiques ne donnaient pas vraiment des résultats différents, ou en tout cas pas significatifs. Donc, c'est pour ça que j'en parle pas. Et une personne sur quatre affirme avoir déjà eu un diagnostic de trouble de santé mentale. On a demandé de préciser lequel. C'était pas finalement très intéressant, mais sachez qu'un sur quatre, quand même, affirme avoir déjà eu ça dans sa vie. Donc, au niveau des groupes étudiés, ce qui nous intéresse un peu plus, finalement, vous le savez, c'est les personnes à risque de suicide, bien évidemment. Et selon l'échelle utilisée, c'était la moitié des répondants, donc la moitié des 336 personnes, qui présentent un risque suicidaire au moment de remplir le questionnaire. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça a dû interpeller quand même certaines personnes, parce qu'il n'y a pas 50 % de la population générale qui pense au suicide. C'est vraiment plus qu'ils ont été davantage interpellés. Pour qu'on retrouve une si grande quantité, j'ai été la première surprise de ça. Donc, je vais surtout vous parler de ces personnes-là. Je vous dis tout de suite que quand même, il va y avoir un sous-groupe que je vais parler, qui sont parmi les personnes à risque de suicide, celles qui affirment déjà utiliser Internet pour des raisons liées à leurs idées suicidaires. Donc, c'est encore plus précis. Et ça, encore, c'est la moitié des personnes à risque. Donc, on se retrouve à chaque fois, on perd des gens, là, mais voilà. Donc, toujours... D'abord, pour faire un peu une meilleure compréhension de ce groupe à risque-là, donc la moitié de mon échantillon total, est-ce qu'il y a une différence au niveau de l'âge, du sexe et du lieu de résidence? Non. Il n'y a rien qui démontre là qu'on retrouve plus d'hommes dans le groupe à risque ou inversement. D'ailleurs, c'est en général ce qu'on va retrouver de toute façon dans les études préalables en prévention du suicide. Sachez qu'il y a définitivement plus d'hommes qui décèdent par suicide, mais au niveau de l'idéation suicidaire, là, c'est assez équivalent entre les hommes et les femmes, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est assez représentatif. Par contre, il existe une différence entre les deux groupes sur la probabilité d'avoir eu un diagnostic de trouble de santé mentale dans sa vie, le fait de vivre seul, le fait de ne pas être hétérosexuel, donc on déclinait davantage l'homosexuel, bisexuel, autre. Mais là, les trois derniers, on les a regroupés ensemble. Et le fait de ne pas avoir comme emploi du temps le travail, en ce sens où les personnes qui étaient aux études et à la maison étaient plus probables d'être à risque de suicide. Revenons au comportement Internet, puisque c'est ce qui nous intéresse maintenant. Alors, dans le groupe à risque, qu'est-ce qui est différent au niveau des comportements Internet par rapport à la population générale? On sait que ces personnes-là vont passer plus d'heures par semaine sur Internet pour un usage personnel. On faisait la différence usage personnel, usage pour le travail, usage pour les études, pour des transactions financières ou autres. Donc, c'était vraiment un usage personnel. Ces gens-là passent plus d'heures. Ils vont moins utiliser les courriels. Ils échangent moins souvent avec les autres. Donc, les échanges n'étaient pas classifiés de « est-ce qu'on parle de courriel, est-ce qu'on parle de Skype », tout ça, c'était vraiment les échanges en général. Ils rapportent faire beaucoup moins d'échanges que les groupes non à risque. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent lire plus souvent les conversations des autres sans y participer. Évidemment, on ne parle pas des courriels ici, on parle des forums, on parle des blogs, on parle des échanges sur des sites d'actualité. Donc, ce sont des lecteurs, les personnes à risque, selon mon échantillon, bien sûr. Aussi, ils vont chercher plus fréquemment des renseignements sur le suicide, c'est assez évident. La même question était posée pour des renseignements sur la santé mentale, et ça, il n'y avait pas de différence. Les groupes non à risque vont tout autant chercher de l'information sur la santé mentale.
Il y aurait même des conseils sur le suicide?
Oui, j'y viens.
Oui?
Oh, oui, tout à fait. C'est assez... D'ailleurs, c'était une des préoccupations principales au départ des intervenants en prévention du suicide au Québec. Il y a tellement de choses dangereuses et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Je pourrais y revenir peut-être après, parce qu'on a fait une autre initiative avant d'arriver là, sur justement ce phénomène-là. Donc, je reviens... Toujours le groupe à risque, on s'est intéressé à la fréquence des sites à la fréquence de leur utilisation de certains sites Internet. Donc, j'ai fait une moyenne, j'ai fait une comparaison des moyennes, finalement, sur chacun des sites Internet sur la fréquence. Donc, je vous montre les plus populaires. Les sites Internet les plus fréquentés par les personnes à risque sont d'abord Facebook. Par contre, la diffusion du questionnaire a beaucoup été faite par Facebook. Il faut mettre un bémol sur le Facebook. Ensuite, l'utilisation des courriels, l'utilisation de YouTube. Donc, YouTube qui est vraiment un module vidéo de partage, etc. Donc, ça va être, semblerait-il, beaucoup fréquenté. On leur a demandé aussi leur niveau d'aisance à communiquer par écrit, puisque sur Internet, c'est beaucoup par écrit que ça se passe. Évidemment, il y a le Skype et autres qu'on parlait tout à l'heure, mais essentiellement, c'est par écrit. Et on leur a demandé leur aisance à communiquer par écrit sur des aspects particuliers, donc leurs émotions. La moyenne correspond, pour vous donner une idée, là, à peu près à assez à l'aise. La demande d'aide, c'est plutôt moyennement à l'aise. Et les idées suicidaires, par contre, c'est peu à l'aise. Donc déjà, on a des gens qui disent « Oui, moi, je fréquente tel et tel site, mais je ne suis pas très à l'aise de communiquer par écrit ma détresse associée aux idées suicidaires. Cette question-là, ces résultats-là sont issus de questions où on leur disait si vous aviez à consulter un site Internet par rapport à vos idées suicidaires, un site Internet, là, peu importe, on n'identifiait pas lequel, quels éléments seraient les plus importants pour vous que vous devriez retrouver dans ce site-là? C'était la question. Et il y avait plusieurs éléments, évidemment, qui étaient pris de la recension de la littérature, là, qu'est-ce qu'on retrouve en général dans un site web. Et les quatre plus importants qui sortent de façon assez forte au niveau des moyennes, c'est l'anonymat d'abord. Ces gens-là s'attendent à pouvoir être anonymes en allant sur un site web lorsqu'ils sont vulnérables au suicide. Ils s'attendent à communiquer en temps réel, donc avec un autre individu, le pouvoir avoir un échange en temps réel, donc sous forme de chat, je vous dirais. C'était pas mentionné chat, mais voilà. Ils s'attendent à ce qu'il y ait gestion par des intervenants professionnels. On peut parler de modération aussi. Donc, des gens qui professionnels de toutes sortes, mais professionnels de la santé qui pourraient intervenir, et qu'il y ait plusieurs options d'aide. Alors, pas seulement une façon de chercher de l'aide, mais plutôt différents modules ou... Oui?
Excuse-moi, je ne comprends pas, Sabine, ce que tu veux dire par caractéristique le plus important d'un site web pour les idées suicidaires, de quoi tu parles?
Un site web, la question c'était, si vous aviez à consulter un site web... Pour vos idées suicidaires, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver sur ce site-là? Quels
pour
éléments?
Pour vos idées suicidaires, en termes de pour les aider ou en termes de passer à l'acte?
C'était pas précisé pour les aider, ni pour passer à l'acte. C'était vraiment quels éléments doivent être importants pour vous pour que vous consultiez un site Internet.
Par rapport à...
Actuellement, okay. C'est ça, exact.
Merci.
La sous-question, c'était essentiellement à peu près la même, mais cette fois-ci, on précisait... Donc, si vous aviez à consulter un site Internet qui est organisé par un organisme en prévention du suicide tel que Suicide Action Montréal, quel serait votre intérêt à utiliser telle et telle et telle option? Et là, ce qui sort le plus fort, c'est ben moi, j'utiliserais le chat avec un intervenant. C'était la moyenne, c'était le plus populaire. Ou les modules d'exercice autonomes pour diminuer les idées suicidaires. Alors ça, c'est dans l'esprit de autogestion en santé mentale qui ressort plus régulièrement au niveau des livres, tout ça. Mais là, on s'est dit, mais pourquoi pas imaginons un module d'exercice d'autogestion sur Internet comme ça que la personne pourrait faire par elle-même pour aller mieux. Et ça sort très fort. Et ça ne surprend pas avec les résultats en haut qui nous disent « ben moi, je voudrais être anonyme, je voudrais être capable de lire des choses, pas nécessairement communiquer. » Donc, c'est assez évident que c'est ça. Je veux juste porter votre attention, par contre, au niveau des moyennes, de façon générale, c'est beaucoup plus fort en haut qu'en bas. Donc, déjà, il semble que le fait de préciser que ça serait porté par un organisme en prévention du suicide, alors, par exemple, il semble qu'ils sont un peu moins intéressés par le fait d'utiliser différentes options. Plutôt qu'en haut, là, ça sort plus facilement. Voilà, c'est une remarque, là, c'est pas nécessairement empirique ici. Finalement, je vous disais qu'on peut s'intéresser aussi à un sous-groupe, donc les personnes qui actuellement utilisent déjà Internet pour des raisons liées au suicide, qui affirment le faire déjà, c'était la moitié des personnes à risque. Donc, pour ces personnes-là, on leur a demandé, mais quel site vous fréquentez et quelle est la fréquence de votre fréquentation sur les sites par rapport à vos idées suicidaires. Et pas étonnamment, mais je vous dirais, tant mieux, ce qui ressort comme plus populaire, c'est les sites de prévention du suicide. C'était pas mentionné là quel exactement, évidemment, c'était leur perception. Mais ça sort plus fort que les sites qui encouragent le suicide ou les sites pro-suicide. Mais quand même, ça sort. Tu sais, que ça peut être utilisé selon leur perception, encore une fois. Et ensuite, on a Facebook qui sort toujours et les forums. Les forums, ils n'étaient pas sortis par le groupe à risque en général. Peut-être que, je vous le dis, là, ça ne sortait pas. C'était plutôt YouTube qui sortait. Ici, pour les personnes qui disent utiliser déjà Internet pour leurs idées suicidaires, ils mentionnent les forums. Donc, des forums où on peut échanger avec d'autres internautes sur nos difficultés, sur nos besoins. Suite à cette question-là aussi, maintenant qu'ils ont répondu à leur fréquence d'utilisation de certains sites, on leur a demandé aussi, mais quel est l'effet sur vos idées suicidaires un coup que vous fréquentez comme ça Internet pour des raisons liées à vos idées suicidaires? Donc, il y avait trois questions un peu semblables, c'était voulu. Donc, quel est l'effet sur vos idées suicidaires? Est-ce qu'Internet vous aide à gérer vos problèmes liés au suicide? Et est-ce qu'Internet vous aide à passer au travers des moments difficiles lorsque vous avez des idées suicidaires? Et de façon générale, je ne l'ai pas mis là parce que c'était pas propice à ça, mais de façon générale, on remarque qu'ils n'identifient pas qu'il y a un effet réel sur leurs idées suicidaires, ou ils vont identifier qu'ils ne cherchent pas de toute façon à gérer leurs problèmes, ou ils ne cherchent pas à passer au travers des moments difficiles sur Internet. Donc, la question qui semble intéressante ici, mais alors pourquoi ils vont sur Internet? Qu'est-ce qu'ils font là s'ils disent ben, « ça n'a pas d'effet, puis c'est pas ça que je fais, puis ça ne m'intéresse pas de gérer mes problèmes sur Internet? » C'est la question que j'ai depuis le début, en fait, mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là se retrouvent sur Internet? Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est quoi le besoin derrière ça? Je vais en venir, j'y viens après. Finalement, je vous disais, donc, il y a des gens qui consultent des sites qui encouragent le suicide, les sites pro-suicide. On a voulu vraiment encore faire des analyses plus poussées sur ceux qui fréquentent les sites pro-suicide, ceux qui ne le font pas du tout, pour réaliser que, justement, ceux qui fréquentent les sites pro-suicide vont utiliser plus fréquemment l'Internet pour leurs idées suicidaires que les autres. Au niveau de la fréquence, là, le nombre d'heures, tout ça, ils l'utilisent plus. Et eux, spécifiquement, ce sous-groupe-là, rapportent avoir plus d'idées suicidaires après leur consultation Internet. Alors, est-ce qu'on a raison, je devrais dire, de s'inquiéter du contenu des sites pro-suicide? Bien, il semblerait que oui. Effectivement, les gens eux-mêmes rapportent avoir plus d'idées suicidaires. Donc, je vous disais que j'ai présenté donc quelques résultats de l'étude de besoin. C'était une étude de besoin qui était vraiment... la question était issue beaucoup du milieu de pratique. Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on devrait faire? Qu'est-ce que ces gens-là fréquentent? Et à l'issue de cette étude de besoin-là, on est quand même à même de dire certaines préférences Internet de ces gens-là. Qui sont-ils au niveau du profil sociodémographique, évidemment? Que font-ils? Quels sites vont-ils consulter? La fréquence d'utilisation de ces personnes-là? On sait aussi, on apprend, en tout cas, dans cette étude de besoin, que c'est des gens qui vont préférer une communication discrète. Et la communication discrète, ici, n'est pas un concept, là. C'est une invention de ma part pour faire état de ce que je vous disais, là, qu'ils préfèrent ne pas échanger, mais plutôt lire, qu'ils préfèrent avoir des modules d'exercice de façon autonome ou qu'ils préfèrent chatter, mais avec un seul intervenant, là, plutôt que avec une grosse population. J'ai remis Facebook en parenthèse pour vous redire que le fait que Facebook ressorte beaucoup comme très utilisé dans cette recherche-là est peut-être associé au recrutement, je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est un bémol par rapport à ça. Donc, l'autre volet de l'étude, effectivement, c'est d'aller s'intéresser plutôt aux caractéristiques psychologiques. Donc, c'est ce que j'ai fait aussi dans un autre volet que malheureusement, je ne peux pas présenter ici, mais c'est vraiment les besoins psychologiques fondamentaux des personnes vulnérables au suicide qui consultent Internet. On est allé établir la différence au niveau de leurs besoins à eux versus les personnes qui utilisent Internet qui ne sont pas vulnérables au suicide. Et je vous dis, c'est très intéressant ce qu'on note comme différence au niveau des besoins cherchés sur Internet. Donc, c'est le prochain volet, entre autres, de cette étude. Merci.